Donc nous voici dans la cour du fameux hôtel de Soubise, donc dans le quartier du Marais, le principal hôtel donc de ces archives nationales dans le centre de Paris. Et dans cette très belle cour classique de l'hôtel de Soubise, nous sommes avec avec Séverine Yattard qui a préparé et qui va animer cette émission avec nous-mêmes, avec Pierre Fournier qui est conservateur général du patrimoine, responsable du département d'action culturelle et éducative ici aux archives nationales, et avec Pierre Piazza qui est maître de conférence en sciences politiques, socio-historien et auteur d'une histoire de la carte d'identité. Il a participé à l'exposition que nous allons visiter qui s'appelle Fichés, une exposition qu'on découvre en arrivant dans cette cour par une cabine de photomaton. Et on a demandé à notre réalisatrice, Séverine Cassard, de tester cette cabine de photomaton, puisque c'est une cabine de photomaton où on peut se faire photographier avec une fiche d'archives, d'une certaine façon, d'un certain type. Alors il y a les terroristes, les vagabonds, les poètes, l'opium, le suspect ou la fille soumise. Séverine Cassard mettait 2 € dans cette petite cabine pour voir ce que ça donne.
Appuyez sur le bouton vert pour sélectionner le décor de votre choix. Vous êtes prêt?
Donc notre réalisatrice a choisi la fiche de suspect. Pierre Fournier, ces fiches qui sont utilisées pour ce photomaton comme décor à des photos contemporaines sont des fiches d'époque?
C'est une fiche anthropométrique, un peu trafiquée, on a changé le mot ici, mais c'est vrai qu'on est parti d'un original, avec, comme vous le voyez, des indications numériques pour la taille, la voûte, l'envergure, le buste, la longueur de la tête, la largeur, etc. etc.
Donc ce sont des indications de la fin du 19e siècle.
C'est la fiche parisienne, comme on l'appelait, c'est-à-dire créée par Alphonse Bertillon, qui a fait le tour du monde, des tas de polices en sont inspirées. Elle se présentait de cette façon-là.
C'est le début de cette exposition, en fait, Pierre Fournier.
Ça sert d'antichambre, en fait.
Et l'affiche qui a le plus de succès, fille soumise, suspect, vagabond, poète, terroriste ou opium, c'est quoi?
Ah, c'est de très loin de terroriste. Les gens rentrent dans cette cabine souvent à plusieurs, et c'est vrai qu'ils détournent complètement ce qu'on voulait faire, d'ailleurs, ces fiches donc signalétiques de leur usage, quoi.
Voilà. Donc une façon de prendre avec un peu d'humour la question du fichage.
Voilà, de ce point de vue-là, je pense que ça marche.
Et on va le voir avec un peu de sérieux en entrant dans l'exposition désormais. Nous voici donc entrés dans cette exposition fichée, donc photographie et identification du Second Empire aux années 60. Et nous sommes justement dans cette entrée d'exposition autour de ce personnage de Bertillon, qui est peut-être le plus connu de cette question du fichage. Pourquoi est-il aussi connu? Parce qu'il est une célébrité mondiale, Pierre Fournier?
De son vivant, Bertillon était considéré comme l'égal de Pasteur, un des plus grands savants de son époque. On lui doit la création du premier service de l'identité judiciaire de la préfecture de police et l'invention de ce qu'on a appelé l'anthropométrie, donc qui consiste à classer les individus en fonction de certaines mesures du corps humain.
Alors on n'est pas au tout début de cette exposition, Pierre Piazza, puisqu'au tout début il y a les premières photographies, les émules de Nadar, et en fait ça va être la systématisation de cette photographie pour la classification des individus qui va être mise en place par Bertillon. À partir de quel moment exactement?
Bertillon en effet n'invente pas la photographie, Bertillon rationalise le protocole photographique, c'est-à-dire qu'il y a des photographies qui sont utilisées, y compris dans certaines prisons déjà pour ficher bien avant Bertillon. Avant Bertillon, il existe déjà d'ailleurs un service d'identification photographique à la préfecture de police, mais avec des méthodes très peu rationnelles, des modes de classement qui sont très médiocres, et donc ça ne permet pas d'identifier correctement les personnes. Donc ce que fait Bertillon, c'est qu'il rationalise tout le protocole photographique avec la fameuse photographie face-profil qu'on connaît tous. Donc des photos faites dans les mêmes conditions de lumière, de luminosité, et surtout un système de classement, c'est ce qu'il invente, un système de classement rationnel des fiches, qui va permettre de ficher des millions d'individus, voire des centaines de mille, voire des millions, et puis de retrouver facilement les fiches par un système de classification à partir des mensurations qu'il effectue sur les corps.
Et d'un point de vue purement technique, elle en est où la photographie, justement, au moment où Bertillon, donc c'est dans les années 1879, c'est ça, rentre justement, prend ses fonctions de spécialiste du fichage, d'une certaine manière?
Alors en fait, Bertillon a bénéficié de ce qu'on appelait la révolution de l'instantané. C'est-à-dire que jusqu'alors, les policiers, sont obligés de faire appel à des photographes pour photographier les prévenus, les criminels. À partir de la révolution de l'instantané, les policiers deviennent eux-mêmes photographes. C'est la miniaturisation des appareils, c'est les plaques de verre que l'on achète dans le commerce. Et c'est vrai que Bertillon profite très très largement de cette révolution de l'instantané dans les années 1880.
C'est aussi une des problématiques qui va être posée à la suite de cette nouvelle organisation, d'une certaine manière, de la recherche des criminels et de toutes sortes de personnes autres bientôt, c'est comment diffuser ces fameuses photographies dans toute la France.
Oui, c'est aussi un des apports de Bertillon, c'est-à-dire la mise en place d'un système quasiment réticulaire à partir de la préfecture de police, c'est-à-dire des échanges d'informations de nature anthropométrique entre la préfecture de police, les établissements pénitentiaires, les colonies aussi, le bagne en Guyane, les commissariats et bien sûr les instances de justice. Donc la nouveauté de Bertillon, c'est aussi de mettre en place ce système dont les informations remontent pour la plupart à la préfecture de police, mais dans une perspective réticulaire, c'est-à-dire un échange d'informations constant avec pratiquement toutes les institutions répressives.
Alors, on a un peu avancé dans cette exposition avec vous, Pierre Piazza et Pierre Fournier. On a un peu avancé, on se retrouve devant des murs de photographies déjà. Il y en a des plus imposants encore au premier étage de cette exposition, on les verra plus tard. C'est déjà cette façon de répandre cette pratique de Bertillon, à savoir le nez, les oreilles, la photo de face et la photo de profil, qui va se répandre un peu partout en France.
Alors, non seulement en France, mais partout dans le monde, puisque en 1889 se tient à Paris un congrès de criminologie et le système de Bertillon est adopté par un très grand nombre de polices dans le monde. Et on a ici sous les yeux des panneaux de plaques de verre rétroéclairées conçus par la préfecture de police justement pour promouvoir aux États-Unis leur savoir-faire.
Ça, c'est absolument merveilleux. C'est très imposant. C'est un mur de photographie qui fait environ 5 mètres de long, 3 mètres de hauteur, 2,50 mètres de hauteur. Et puis, et donc, à l'intérieur, des criminels, si on se rapproche, on voit qu'ils ont pour certains le sourcil long, d'autres le sourcil court, les autres le sourcil réuni, etc. Et puis, de l'autre côté, les orbites basses pour les yeux, l'interoculaire petit. Et en face, il y a la traduction en anglais de ces termes qui ont été systématisés par Bertillon, c'est ça, Pierre Piazza?
Oui, alors ça, il est vrai qu'ici, c'est une pièce assez rare. Je crois qu'elle est issue de Saint-Cyr au Mont-d'Or, c'est ça, l'école des commissaires. Donc il reste très peu d'exemplaires comme ça à travers le monde, et donc des vitrines comme ça servant à Bertillon à faire la promotion de son savoir. Et c'est vrai que tous ces visuels assez extraordinaires ont aussi contribué, tout comme les relations que Bertillon entretient régulièrement avec la presse, à la diffusion de son nouveau savoir à travers le monde entier. Quoi.
Oui, il a le savoir-faire, mais il a aussi le faire savoir.
Voilà, exactement, comme dirait Pierre Bourdieu.
C'est une sorte de catalogue, en fait. Hein. Catalogue des oreilles, catalogue des sourcils, catalogue des moustaches. Alors, est-ce que ça va être... Comment on va classer ça? C'est aussi le problème va se poser, parce que est-ce que c'est si pratique que ça, finalement, Pierre Fournier?
Alors, en fait, ce qui est important, c'est que vous avez toujours, donc, une expression qui est associée à une image. Et c'est l'expression qui est importante pour les policiers. Et donc, ça va permettre aussi de diffuser l'image aussi facilement que de nos jours avec le bélinographe et puis l'impression photomécanique.
Est-ce qu'il y a des résistances, Pierre Piazza, à ce moment-là, donc au moment de Bertillon, à la toute fin du XIXe siècle, ou est-ce que tout compte fait, ça passe comme une lettre à la poste?
Alors, il y a des résistances qui s'expriment notamment chez certains élus, puisque je n'ai plus la date en tête, mais il y a un député qu'on veut passer à l'anthropométrie et il s'insurge contre cette pratique. Il y a des résistances aussi, il y a pas mal de débats autour de Bertillon sur les femmes, parce qu'en fait, l'anthropométrie suppose des attouchements. Voilà, donc il y a aussi, concernant Bertillon, finalement, beaucoup de contestations prestation sur autre chose, c'est-à-dire l'analyse du bordereau accusateur dans l'affaire Dreyfus, mais là on dépasse un peu le cadre de l'exposition ici, c'est-à-dire que Bertillon devient un spécialiste en graphologie, un spécialiste en analyse de traces sur le terrain, et donc c'est lui qui va expertiser le fameux bordereau accusateur, ce qui va...
À tort d'ailleurs.
À tort, voilà, donc ce qui va pratiquement lui coûter une démission. Il sera sauvé par l'épine.
Alors, on va avancer encore dans cette exposition. Dans cette première partie de cette exposition fichée aux Archives nationales, on voit la façon dont se répand justement ce type de fichage. On est devant ici les États-Unis du Venezuela, par exemple, qui reprennent le portrait de face profil. Alors, il faut lever une ambiguïté. La question des empreintes digitales, Pierre Piazza, ça n'est pas Bertillon.
Non, alors il y a souvent une idée fausse qui est mise en avant, c'est-à-dire que Bertillon serait l'inventeur des empreintes digitales. Non, en fait, initialement, il lutte contre l'imposition des empreintes digitales, tout simplement parce que l'empreinte digitale est une technique d'identification beaucoup plus simple que tout son système de mensuration. Le paradoxe, c'est que Bertillon est sans doute le premier, dans la fameuse affaire Schaeffer, à avoir découvert un criminel grâce à des traces laissées sur une scène de crime, en l'occurrence sur une vitrine où l'individu avait laissé ses empreintes digitales. Donc c'est tout le paradoxe. Il a plutôt lutté pour qu'on n'instaure pas un système de classement dactyloscopique des fichiers, mais en même temps, en termes d'analyse de traces, c'est pratiquement le premier à avoir découvert un assassin à partir d'une empreinte laissée sur le lieu d'un crime.
Alors on avance encore dans cette première salle, au rez-de-chaussée de cet hôtel de Soubise, et on se trouve donc... face à une salle extrêmement, la dernière partie de salle extrêmement intéressante, puisque vous avez voulu vous intéresser en particulier à ces brigades du Tigre, qui sont connues par un feuilleton des années 70-80 à la télévision, mais aussi parce que d'une certaine façon, il y a quelque chose qui se cristallise autour du combat contre ces criminels, et en particulier contre les criminels, en particulier contre les anarchistes, et le travail de Clémenceau comme ministre de l'Intérieur au tout début du XXe siècle, Pierre Fournier.
Voilà, donc c'est la grande réforme de 1907 que l'on doit à Clémenceau, qui s'est exclamé dans un discours célèbre que la police judiciaire était la seule police que pouvait se permettre une démocratie. Et on voit comment, donc, avec ces traces archivistiques, se met en place à la fois un système de centralisation de l'information photographique, mais surtout de diffusion à travers un bulletin de police criminelle et la création des premiers fichiers centraux, puisque pour l'instant, on était jusqu'à présent dans le monde de la préfecture de police, qui était un monde parisien, et là, c'est désormais le ministère de l'Intérieur qui prend en charge cette centralisation de l'information.
Donc c'est une forme de rationalisation, en fait, policière, et de la société, peut-être, justement, si on revient à Foucault, de la société dans son ensemble.
Absolument, c'est une nouvelle étape dans la modernité, centralisation étatique. Désormais, en France, on n'avait plus Paris, un désert policier. Vous avez un ministère qui, grâce aux brigades mobiles devenues les brigades du Tigre, couvre l'ensemble du territoire.
Alors oui, sur les brigades mobiles, c'est intéressant, puisqu'en fait, les brigades mobiles aussi s'inspirent très fortement de ce qui a été fait à la préfecture de police. Donc Bertillon, de ce point de vue-là, est un modèle. Les brigades mobiles sont officiellement créées pour s'adapter, comme leur nom l'indique, à la mobilité du crime. Par contre, il y a quelque chose d'un peu moins connu, c'est qu'elles ont surtout œuvré initialement au fichage des nomades. On va peut-être en reparler un peu plus tard. Mais on a, si vous voulez, un objectif officiel, mieux lutter contre la criminalité mobile. Mais dans les faits, les premières choses que font ces brigades mobiles, c'est retrouver les nomades, les ficher, les photographier, les tracer, etc. Donc si vous voulez, c'est la première action véritable menée par ces brigades mobiles.
Alors justement, puisque vous évoquez les nomades, eh bien on va quitter cette première salle ici, donc au rez-de-chaussée de l'hôtel de Soubise, pour nous rendre de l'autre côté, c'est-à-dire au premier étage, là où justement il y a le début d'une autre partie de l'exposition consacrée à cette question des nomades.
Thank you.
voici donc arrivé dans la deuxième partie de cette exposition fichée aux Archives nationales dans le centre de Paris avec Pierre Fournier, Pierre Piazza et Séverine Yatin de la Fabrique de l'Histoire qui a préparé cette semaine avec nous sur la question des papiers d'identité. Et vous disiez à l'instant même, lorsque nous quittions cette première salle au rez-de-chaussée, Pierre Piazza, que l'important c'était justement la question du nomadisme. On est au cœur du sujet, Pierre Fournier, vous avez donc consacré une partie de cette exposition à cette question des nomades, des forains et des marchands ambulants.
Qui étaient les trois catégories définies par une série de décrets de circulaires de 1912-1913. Donc vous avez ici sous les yeux les fichiers photographiques élaborés notamment dans les préfectures, les sous-préfectures, mais aussi dans les commissariats. On montre là comment cette population de nomades est fichiée au titre de ce qu'on va appeler la police administrative pour l'élaboration des carnets d'identité, mais aussi par la police judiciaire des polices urbaines. Et donc ces fichiers photographiques, ces feuilles signalétiques, où vous avez donc tout le protocole de Bertillon, hein, puisque même pour les enfants, les petits-enfants, on voit ici des enfants âgés de 5-6 ans, vous avez des fiches décadactylaires, les 10 doigts de la main, la photographie de face profil et quelques indications signalétiques. Et ce sont donc ces fiches signalétiques qui vont permettre aux autorités, aux préfectures notamment, de délivrer aux familles les carnets anthropométriques collectif et individuel. Donc vous avez des carnets pour des familles entières, avec ici la page des visas, puisque chaque fois qu'il changeait de localité, le maire devait viser, un peu comme un passeport, le carnet anthropométrique, et des carnets individuels au-dessus.
Alors, quelle est cette nouveauté, Pierre Piazza, justement, du carnet anthropométrique? C'est-à-dire que, désormais, il n'y a plus simplement une centralisation dans des fichiers qui sont stables dans un endroit particulier de votre identité, mais vous êtes obligé de vous transporter vous-même avec votre propre carnet anthropométrique. Comment ça se passe exactement?
Le carnet anthropométrique, finalement, s'inscrit dans la continuité de ce qu'a pu faire Alphonse Bertillon, et on retrouve d'ailleurs la photographie face profil, etc., et les empreintes digitales que Bertillon ajoutera ensuite sur ses fiches anthropométriques. Le véritable paradigme nouveau, c'est ce lien entre la carte et le fichier. C'est-à-dire, on a ces informations dans un fichier et en même temps, on les a aussi sur le document portatif. Donc, pour être en règle, l'individu doit avoir constamment sur soi, bien sûr, ce carnet anthropométrique est obligatoire, il doit avoir constamment sur soi ce document. Donc, on vérifie la validité de ce document, on vérifie les visas du document, etc. Donc, c'est aussi un moyen de tracer les personnes et constamment s'assurer qu'elles sont bien en règle. Et si elles ne sont pas en règle, bien sûr, on les punit, on les sanctionne.
Un moyen un petit peu d'échapper, entre guillemets, et pas sûr, hein, parce que finalement, il y a le carnet plus le fichier, c'est de perdre le carnet, si on perd le carnet.
Oui, mais comme le port du carnet est obligatoire, vous auriez été sanctionné. Ouais,
ouais. Ouais. Vous risquez de quoi d'être...
Alors, il y avait tout un tas de pénalités qui étaient établies en cas de tentative d'usurpation, d'absence de port du carnet, etc. Donc, l'idée, c'était bien d'accentuer les tracasseries à l'encontre de cette population qu'on suspectait d'anormalité. D'une part, parce qu'elle avait quelquefois un état civil qu'on considérait comme inconnu, et puis en plus, elle était mobile, donc elle avait, si vous voulez, les deux stigmates contre lesquels s'opposait une république qui voulait des citoyens sédentarisés.
Alors, tout de même, ce qui est très intéressant, Pierre Fournier, dans une exposition comme celle-ci, c'est qu'on pourrait croire que c'est une exposition froide, puisque justement, la froideur de ceux qui classaient, c'est comme ça qu'on l'a gardé en tête, d'une certaine façon, cette sensibilité qui s'interdit caractère artistique en particulier, mais on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui pourrait émouvoir Arlette Farge, qui travaille très régulièrement avec nous, c'est-à-dire ici on est devant un carnet collectif de nomades et visiblement la famille G, donc dans cette vitrine, a, disons, récupéré cette obligation en mettant un petit tissu de robe ou quelque chose comme ça, ou d'habillement autour de ce carnet pour l'habiller lui aussi.
Voilà, donc on le voit, le carnet est protégé, hein, avec cette jolie couverture.
Rouge et or.
Voilà, rouge et or. Alors, ça fait partie d'un fonds de carnet anthropométrique de nomades que l'on trouve aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, et qui a ceci de particulier, c'est qu'il a été récupéré, ce fonds de carnet, dans les archives des camps de Saliers, dans les Bouches-du-Rhône, et accessoirement de Rivesaltes. Donc on sait que ce sont des carnets qui ont appartenu à des familles de nomades qui ont été déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Pierre Piazza.
Alors, sur cet exemple est très intéressant, c'est-à-dire aussi la manière dont dorénavant les individus s'approprient finalement des documents.
Cette obligation.
Et comment on arrive à une situation où désormais identité de papier, identité de et identité réelle des individus quasi fusionnent. Donc on a bien cette idée aussi que, bien sûr, il y a des résistances, des contournements, mais il y a beaucoup d'intériorisation finalement des contraintes par les individus eux-mêmes.
Alors, ce fichage des nomades, donc, donne lieu à d'autres types de fichages. On va s'intéresser évidemment aux nomades qui sont sur le territoire français, puis on va s'intéresser aussi à ceux qu'on appelle réfugiés apatrides. Il y a une autre section ici où vous vous intéressez à la question du fichage des communistes, par exemple, des soviétiques. Donc il y a une généralisation de tout cela avec des fichiers qui sont un peu différents de ceux qu'on a vus à propos des nomades, Pierre Fournier.
Oui, alors là, ça fait partie donc de ce qu'on appelle les impacts de la guerre 14-18 avec ce grand chambardement mondial, la chute des empires et l'apparition de nouvelles catégories juridiques dans la population, des individus qui n'ont plus de patrie. Et se pose la question dès les années 1918-1919 avec tous les citoyens originaires de l'ex-empire russe et bientôt de l'ex-empire ottoman avec les Arméniens et les Assyro-Chaldéens. Donc, là, on est dans le cas d'un fichage qu'on pourrait presque le qualifier d'humaniste. Ces gens-là n'ont plus de papier, ils n'ont plus de patrie. Que fait-on? Et donc, on doit à Nansen, donc cet humaniste nordique, la création du passeport Nansen. Mais là encore, qui dit passeport dit matrice, fichier à partir de laquelle on va générer ces passeports. Et donc, nous avons l'exemple là d'une série de passeports, un passeport Nansen, des passeports donc d'Arméniens, mais surtout les registres de certificats qui permettaient aux autorités de délivrer ces fameux certificats qui souvent permettaient la simple survie. On pouvait enfin sortir de l'état issu de l'Empire ottoman, sans quoi ça n'était pas possible.
Certificat, l'agent à Marseille de l'Office des réfugiés arméniens, certifie que la nommée, etc., etc., est née à Tcherlou, en Asie mineure, le 18 mars 1871, etc., fait à Marseille le 4 juin 1934.
Absolument. Et là, donc, c'est une particularité aussi avec les Arméniens qui font partie de ces communautés de l'Empire ottoman qui ont une vraie proximité avec la photo. Et c'est vrai que dans ces passeports arméniens, ce qui frappe souvent, c'est la qualité des portraits et des regards.
Là, les photos de famille même, parfois. On voit, c'est pas des portraits
exactement. Tout simple. Et là, vous avez même une photo de groupe, donc d'une religieuse entourée de 9 ou 10 orphelines. Et c'est le seul et même passeport pour l'ensemble de ces orphelines.
Pierre Piazza.
Là, je crois que c'est un exemple très intéressant, comme l'a dit Pierre Fournier, c'est-à-dire qu'on a exactement les deux facettes, si vous voulez, de la mise en carte des personnes. On a le volet répressif à travers les nomades, et puis on a éventuellement le côté intégrateur, on peut l'appeler comme ça, des papiers d'identité. C'est-à-dire que dorénavant, dans un processus fait de mise en place des États-nations, pour exister, il faut une nationalité et il faut qu'un papier matérialise cette appartenance. Donc le papier peut servir à la fois à intégrer ou à la fois à exclure. On a ici les deux versants un peu radicaux de ce processus.
Alors si on avance dans cette exposition, Pierre Fournier, sur cette question du fichage, vous nous emmenez où exactement maintenant?
Alors nous sommes toujours dans les contre-coups de la Première Guerre mondiale avec la réobligation du passeport, l'apparition donc la création d'un énorme fichier central au ministère de l'Intérieur, rue des Saussées, et on voit ici, par exemple, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, comment les simples demandes de visa d'individus originaires de l'ex-empire russe nourrissent désormais des dossiers nominatifs qui constituent ce fameux fichier central.
C'est-à-dire que ce qui était une invention, je sais pas, 20 ou 30 ans plus tôt, un peu expérimentale, devient indispensable à la fois aux administrations, mais il y a une petite section à l'entrée de cette salle aussi, aux entreprises, c'est-à-dire que la généralisation va être pour l'administration centrale, pour les commissariats de police un peu partout, mais également pour les mines, pour les agriculteurs, pour les marchands de bestiaux, Pierre Fournier.
Voilà, exactement. Nous avons tenu à montrer comment cette généralisation de l'encartement s'empare de tout le territoire français entre les deux guerres, et vous avez des catégories de population qui jusqu'alors était complètement hermétique à la photo. On a pris l'exemple donc de marchands de bestiaux du département du Jura qui, dès les années 20, ont droit à une carte d'identité de marchands de bestiaux agréés. donc peuvent se rendre de foire au bétail, en foire de bétail, avec justement cette garde d'identité. Le monde du travail, le monde de l'éducation est pris dans le mouvement.
Sur ce point, Pierre Cazard.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la dimension policière du fichage, hein, pour le contrôle, la surveillance,
diplomatique,
le traçage, etc. Mais il y a aussi la carte qui matérialise un droit ou un statut. Donc c'est aussi pour ça que l'encartement se diffuse dans tous ces secteurs de la société. Donc on a des logiques très différentes. Si on veut faire simple, le bertillonnage se développe à la fin du 19e siècle. On fiche initialement les récidivistes, puis les anarchistes. Puis on l'a vu, on met en carte les nomades. Ensuite, 1917, carte d'identité pour les étrangers. Et 1921, première carte d'identité pour les Français. Et ensuite, ce processus d'encartement se diffuse à l'ensemble des secteurs de la société, de manière compartimentée, marchands de bestiaux, etc.
Mais qui dit processus d'encartement dit aussi processus de centralisation. Enfin, en tous les cas, il faut des fichiers, évidemment.
Parce
que, et pour savoir qui détient les cartes et contrôler, en fait, tous ces détenteurs de cartes.
Et l'évolution la plus marquante de l'entre-deux-guerres, c'est justement le passage de fichiers locaux, généralement gérés par des municipalités, des préfectures, des sous-préfectures, à des fichiers centraux. Et là, c'est effectivement la grande nouveauté de la fin des années 30, la naissance de fichiers centraux aux dimensions véritablement vertigineuses.
Alors vous en avez un, justement, au fond de cette exposition, nous allons nous y rendre, un énorme fichier central qui, je crois, fait 2 500 000 fiches, c'est cela, mais vous en avez exposé évidemment qu'une petite partie, 600, je crois,
600.
Plusieurs centaines, 600 fiches, pour montrer justement le gigantisme de cette classification, de ce classement, de cette volonté de classer les individus, et vous l'avez fait de belle manière, justement en montrant un mur de fiches, pourrait-on dire, sur 5 ou 6 mètres de haut dans cette exposition fichée aux Archives nationales. On se trouve devant ce mur de fiches. Alors beaucoup d'anonymes, évidemment, et vous ne pouviez pas éviter effectivement le fait de mettre au niveau des passants dans cette exposition, des visiteurs, certaines fiches un peu plus connues, de personnages un peu plus connus que d'autres, les peintres, Fujita, Dali, Cocteau, les cinéastes, Buñuel, Samuel Beckett, Joséphine Baker ou Sacha Guitry.
Voilà, le fichier central de la Sûreté nationale. J'ouvre une parenthèse, nous avons devant nous un fossile. C'est-à-dire que ces fichiers, qu'ils soient locaux ou centraux, très généralement sont détruits par les autorités qui les ont créés. Parce que ça prend tout simplement trop de place. Et que ça ne sert à rien de garder indéfiniment des fiches d'individus décédés.
Ça veut dire que le débat sur la destruction des fichiers, on y viendra peut-être en passant devant la question du fichier, entre guillemets, du fichier juif, c'est une pratique régulière qui précède la Seconde Guerre mondiale et qui est une pratique, disons, de nettoyage des fichiers au fur et à mesure que les personnes décèdent ou ne sont plus sur le territoire français. C'est cela, Pierre Fournier ?
Absolument. Un fichier, normalement, quel qu'il soit, s'il veut continuer à fonctionner, il faut régulièrement l'épurer. Et là, nous avons affaire à un fossile pour une raison très simple. C'est un fichier qui s'est figé brutalement à l'été 1940, qui est resté au ministère de l'Intérieur, qui a été pris par les nazis, puis en 1945 par les soviétiques, et qui nous est revenu pratiquement intact au début des années 90. Et nous en exposons donc une infime partie, hein, je vous l'avais bien dit, c'est 2 500 000 fiches, environ 1 700 000 dossiers nominatifs, parce qu'une fiche donne toujours un accès, c'est une clé en fait, hein, c'est un index à ces dossiers nominatifs que nous montrons d'ailleurs dans les contenants de l'époque soviétique, puisque ce fichier a passé peut-être plus de temps en Union soviétique qu'en France.
Oui, donc ce sont des grandes boîtes en carton qui permettent de classer les dossiers, des dossiers nominatifs. Qu'y a-t-il dans ces dossiers nominatifs du fichier central, Pierre Piazza ?
Alors, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire comme a dit très bien dit Pierre, la fiche fait le lien avec le dossier. Et dans le dossier, on trouve notamment des renseignements sur tous les étrangers qui se faisaient attribuer une carte d'identité, un passeport, etc. Ce qui est assez intéressant sur ce fichier, je trouve, ça montre bien que les pratiques de fichage, alors ce fichier, il est surtout amplifié à partir de 1935, il devient gigantesque à partir de cette période, rationalisé, etc. Ça montre bien un peu la frénésie de fichage qui se développe à la fin de la Troisième République. Donc
on pourrait penser que c'est Vichy qui a mis en place tous ces systèmes, etc. Mais dans les savoir-faire sont déjà là, hein, comme l'a dit Gérard Moiriel dans un de ses ouvrages. On a ici un peu les origines républicaines de Vichy, c'est-à-dire que tout ce savoir-faire va ensuite être mobilisé à d'autres fins, bien sûr. Mais le savoir-faire administratif, le savoir-faire des fonctionnaires est déjà là, bien en place.
Et l'usage que vont en faire, en tous les cas, les nazis à l'époque, au moment de l'occupation, est essentiel quand même, de ce fameux fichier, enfin, exponentiel. Enfin, il va y avoir fichage et surfichage quand même pendant ces périodes-là.
Bien sûr, mais le processus est enclenché bien avant Vichy, c'est ce que je voulais souligner. Alors Vichy va rajouter des choses, comme le fichier des cartes d'identité de Français, qu'il veut centraliser, etc. La mention juive sur les cartes d'identité. Mais le savoir-faire administratif, bureaucratique, est déjà là. Et on voit ces millions de fiches qui existent déjà sous la Troisième République.
Pierre Fournier, alors ce qui est intéressant, c'est que on pense évidemment progrès de la normalisation. On se dit, on est parti de fiches Bertillon qui étaient donc déjà un peu normalisées, et puis ensuite on avance dans le temps. Il y a une sorte de perfectionnement, pense-t-on, administratif du classement et de la classification des individus. Mais ce qui est étonnant, puisque cette exposition fichée tourne autour de la question de la photographie et de la photographie dans les papiers d'identité, c'est qu'en fait il y a encore beaucoup de variété dans ces fiches. Des gens sont photographiés de profil, d'autres de face. Certains, évidemment, une bonne sœur à cornette, par exemple. Et d'une certaine façon, on se dit que ça n'est pas encore totalement normalisé. On prend la photographie qu'on fait chez son photographe de quartier, par exemple.
Oui, ou que l'on découpe dans une photographie de groupe. Ceci étant, le profil, tout de même, est symptomatique. Si vous observez, vous avez certaines photographies de profil. Et là, c'est tout simplement les effets immédiat d'un décret de mai 1938 qui impose aux étrangers la photographie de profil. Effectivement, à partir du mois de mai 1938, c'est le cas ici et ici, les portraits des étrangers sont systématiquement de profil. Mais vous avez raison, vous avez encore beaucoup de coiffes alors qu'elle est interdite, c'est très clair dans les circulaires, et on est encore loin du portrait dit d'identité qui, à l'époque d'ailleurs, n'existe pas.
Est-ce que le photomaton, Pierre Fournier?
Alors, le photomaton existe dès la fin des années 20. Il est installé à Paris dans les gares en 1928-29. Ceci étant, pour avoir. Je me retourne vers Pierre Piazza, pour que la police puisse utiliser ce genre de fichier, il faudrait aussi que soit normée la distance entre le haut de la tête et le haut de la photo, ainsi que le menton et le bas de la photo, ce qui n'est absolument pas le cas ici.
Alors, derrière vous, Pierre Fournier, juste en face de ce grand mur de photographie, on trouve visiblement là aussi une sorte de relique. Il n'en existe nulle part ailleurs que dans les Hautes-Pyrénées. C'est quoi exactement ce grand meuble de bois, donc extrêmement standardisé lui aussi, des tiroirs, trois tiroirs qui doivent faire environ 25 à 30 cm presque carrés les uns les autres. C'est quoi ce fichier exactement, Pierre Fournier?
Alors, encore une fois, nous avons affaire à un fossile. Pierre Piazza nous en parlera dans un instant, je pense. C'est le fichier des cartes d'identité de Français. J'insiste bien, de Français, parce que c'était pour distinguer cette carte d'identité de celle des étrangers, qui était la seule obligatoire. Donc, Vichy impose la carte d'identité aux Français. Et à partir de 1943, dans certains départements pilotes, une douzaine, on met en place quelque part la carte d'identité qui est l'origine de celle que nous connaissons, avec un numéro d'identification unique et bien évidemment la photo, une ou deux empreintes et quelques indications signalétiques. Très généralement, ces fichiers ont été détruits après la guerre, sauf dans les Hautes-Pyrénées où il a été intégralement conservé.
Pierre Pelletier.
Alors oui, c'est un fichier. J'avais l'honneur d'être un des premiers à consulter quand je faisais ma thèse sur la carte d'identité. En effet, c'est pratiquement le seul qui subsiste. La carte d'identité sous Vichy est instaurée comme obligatoire. La carte d'identité de Français est instaurée comme obligatoire en octobre 1940. Et donc, cette carte est mise en place dans certains départements, dont celui des Hautes-Pyrénées. Et donc, on a pour la première fois, ça c'est assez intéressant, une entreprise de fichage des Français, avec la volonté de mettre en place un fichier central de l'ensemble de la population française, qui couple encartement et statistique. C'est-à-dire, pour la première fois, on a le numéro d'identification qui est apposé sur les cartes d'identité, qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de notre numéro INSEE. Donc c'est très intéressant, ce projet de carte d'identité sous Vichy.
Vous voulez dire le 1 pour les hommes.
Voilà, exactement. Et on a cette volonté, si vous voulez, de recenser la population en même temps qu'on l'affiche,
et d'établir à partir de ces recensements des statistiques dans quelle optique, à l'époque sous Vichy, régénérer la nation.
Alors, le fichier juif, le fameux fichier juif, nous y arrivons parce qu'évidemment, ça a été un moment très important des années récentes de débat, justement, entre archivistes et historiens en particulier, et puis aussi tous les porteurs de mémoire de la Shoah, de la déportation. On se trouve devant le fichier juif. C'est le seul pour lequel vous mettez, entre guillemets, fichier juif. C'est-à-dire pourquoi ? C'est parce que ça n'est pas la bonne appellation. C'est comme cela qu'on le connaît, Pierre Fournier, mais ça n'est pas l'appellation qui correspond à ce que c'est exactement ?
Alors, il faut savoir qu'il y a eu un fichier juif élaboré par la préfecture de police à partir des recensements de la population, mais que ce fichier, qu'on appelait d'ailleurs le fichier Tullard, a été détruit à la fin des années 40. Ce que nous avons sous les yeux, c'est un fichier qui est exposé à l'heure actuelle au mémorial, hein, au CDJC, dans la crypte, et en fait, il s'agit seulement des juifs arrêtés et enfermés dans des camps d'internement, de transit, etc. Donc ça n'est pas, il ne concerne pas toute la population juive, d'une part, et c'est vrai que c'est avant tout le fichier donc des camps du Loiret et de certains fichiers de la préfecture de police. Alors ce qui est curieux, c'est que vous avez 4 fiches en tout portant photographie. Donc nous les exposons, et alors que c'est vraiment un fichier de gestion en fait des camps.
Mais il y a d'autres moments pendant ce régime de Vichy, justement, où on fiche les Juifs sous d'autres modes. Par exemple, vous exposez juste à côté de cette vitrine 205 où il y a le fichier juif, vous exposez juste à côté donc les cartes d'entrée permanentes à la Bourse des marchandises de Marseille. Et visiblement, ces cartes ne sont pas anodines, elles ont été choisies en fonction du nom de ceux qui les portent.
Voilà, nous avons voulu montrer aussi ces opérations de détournement de fichiers auxquels procèdent les autorités de Vichy. Et nous prenons comme exemple des fichiers parfaitement anodins. Donc vous avez cité la Bourse du Travail à Marseille, mais vous avez derrière vous...
Bourse des marchandises.
Des marchandises de Marseille, pardon. Vous avez ici le fichier des cartes d'identité d'étrangers de la Haute-Loire. Et on voit comment ces fichiers qui ont été conçus de manière assez anodine ont été détournés par les autorités et qu'on en a extrait certaines fiches... travaillant sur les intervalles alphabétiques, notamment la consonance des patronymes, pour créer de véritables fichiers juifs.
Alors, il y a aussi à côté une petite vitrine qui est fort intéressante, puisqu'elle montre comment la résistance va tenter de détourner justement tout ce processus de fichage de la population pendant la Seconde Guerre mondiale par la police de Vichy, avec les instructions pour confectionner des faux papiers. Ça se trouve aux Archives nationales, c'est une sorte d'inscription sur du papier pelure, donc où on explique comment on doit confectionner les faux papiers. Puis ensuite, un exemple de faux papiers. Pierre Piazza, ça vous dit quelque chose justement sur
le
contournement?
C'est un contournement très important, puisque on a le projet donc du régime vichyste d'instaurer cette carte d'identité obligatoire, et puis à partir surtout du moment où le gouvernement instaure le STO, on va voir se multiplier la rupture, c'est 42-43, les officines de faux papiers qui vont véritablement inonder la France de faux papiers. Alors, initialement, ce sont de faux papiers qui sont faits de manière assez amateur, on va dire. Et puis, le réseau se perfectionne. Certains membres, d'ailleurs, des services statistiques dont je parlais tout à l'heure, feront passer le modèle de la carte d'identité en Angleterre aux résistants. Donc, on va avoir progressivement une professionnalisation à partir de 43, une professionnalisation des officines de faux papiers. Et ça va être assez efficace pour beaucoup de résistants qui vont pouvoir échapper aux arrestations grâce à cela.
Alors, comment sait-on d'ailleurs, quand on est archiviste, que ce sont des faux papiers, ceux-ci, on les a récupérés dans quel fonds pour savoir que ce ne sont pas des vrais, tellement ils sont représentatifs de ce qui se faisait à l'époque, en tous les cas, comme papier véridique, Pierre Fournier?
On le sait parce que ce sont des papiers qui ont été versés par des organisations de la résistance. Voilà, donc on sait que ce sont des faux papiers. D'ailleurs, on voit que plusieurs individus ont plusieurs cartes d'identité à leur nom. Et c'est vrai que, comme vient de le dire Pierre Piazza, la résistance met au point un savoir-faire inégalé en matière de faux papiers. Et là, je vous cite l'extrait des lettres françaises en 44, au lendemain de la Libération, où un auteur écrit « Les faux monnayeurs de notre enfance ne sont que de tout petits enfants à côté de ceux que la nécessité de la défense intérieure a suscité. » et de raconter l'histoire d'officines parisiennes où on fabriquait des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de faux papiers de tous ordres. Ça allait la carte d'identité ou permis de conduire en passant par l'Ausweis, etc., etc.
Pierre Piazza.
Alors, cette expérience des faux papiers, elle est aussi fondamentale quand on veut comprendre le processus de fichage en France. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule période durant laquelle la carte nationale d'identité, elle s'appelle carte d'identité de français, sous Vichy a été rendue obligatoire, avec la volonté de faire un fichier central des cartes pour mieux repérer et contrôler les personnes. Cette expérience des faux papiers, et puis aussi plus généralement l'expérience vichiste de traque de certaines catégories de la population grâce aux papiers, au sortir de la guerre, va susciter des débats. C'est-à-dire qu'on va dire la carte ne doit plus être obligatoire, on ne doit plus constituer un fichier centralisé, mais des fichiers préfectoraux éclatés, etc. Donc cette expérience de répression des Juifs, et puis des faux papiers, elle va jouer aussi par la suite dans la structuration des débats autour de ce que l'on doit faire de l'encartement si on veut ficher la population française.
Et sur la question des libertés, justement.
Des libertés, bien sûr.
Il va y avoir un retour, et on va passer à la dernière salle, peut-être. Sur la guerre d'Algérie,
en fait, avance.
Où là, on va ficher de manière assez systématique.
Alors c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'après après Vichy, la carte d'identité qui suit, c'est 1955. Une carte d'identité facultative avec des fichiers préfectoraux et non plus centralisés. Et le ministère de l'Intérieur qui affirme que cette carte d'identité est délivrée dans un état d'esprit complètement libéral. Il n'y a qu'une, enfin, c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai, puisqu'il y a une catégorie de citoyens particuliers qui vont être, d'individus qui vont être fichés de manière particulière grâce à cette carte. Ce sont les musulmans, les Français musulmans d'Algérie. Il y a des fichiers particuliers qui vont être institués, notamment via la carte d'identité, mais pas seulement, pour cibler cette catégorie afin de mieux la contrôler, la surveiller.
Mais Pierre Piazza, au début, cette démarche, elle est faite au nom du recensement, alors qu'en fait, sa première vocation, c'est justement de ficher et de contrôler, justement, les
alors, ça dépend quel sens on donne au recensement. On peut faire plusieurs choses avec un recensement. On peut recenser pour faire de bonnes choses, et puis on peut recenser pour en faire de mauvaises. Mais il y a toujours cette idée de coupler recensement et encartement à des fins de contrôle. On le voit très clairement sur les populations d'Afrique du Nord.
Alors justement, dans cette petite salle qui conclut presque cette exposition, donc on se trouve ici, Pierre Fournier, devant ces fameuses demandes de certificats du département d'Alger, donc des photographies, des hommes, mais aussi beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes dont on sait, en particulier grâce au témoignage de Marc Garanger, qui était photographe pour l'armée et qui a témoigné plus tard, effectivement, qu'on les dévoile de force, on les oblige à montrer leur visage pour... justement, à la fois l'administration, mais aussi la répression, Pierre Fournier.
Bien sûr, puisque on a tous été recensés au moins une fois dans notre vie. On ne nous a jamais demandé nos empreintes digitales. Là, on voit très bien que, certes, il s'agit d'un recensement, mais d'une part, vous avez la photographie obligatoire et surtout, tête nue, deux empreintes digitales, une série d'indications, bien sûr, d'état civil. Ce recensement a été effectué par ce qu'on appelait les SAS, dont les sections administratives spécialisées, qui étaient des unités mixtes, à la fois militaires et civiles. Donc c'est vrai que ce sont de véritables opérations pilotées par des militaires. Et donc ce recensement, certes, donnait lieu à un certificat de recensement qui, quelque part, tenait lieu de titre d'identité, mais plusieurs auteurs ont montré à quel point c'était avant tout un outil de contrôle et de surveillance. Et les fiches en question que vous avez sous les yeux ont servi à bien d'autres services que ces sections administratives spécialisées, hein, notamment donc aux services de renseignement.
Pierre Piazza, sur ce point et sur la multiplication de ces fichiers, parce que dans le cadre d'une guerre, il y a, on l'a vu pour la Seconde Guerre mondiale, des fichiers administratifs, mais il y a des fichiers spécialisés pour les gens de l'OAS, par exemple, avec des petites brochures qui sont représentées dans cette vitrine, ou encore pour les sympathisants du FLN, pour les membres du FLN. Enfin, il y a des multiplicités d'usages de ce type de fichiers dans un cadre de guerre comme la guerre d'Algérie.
Alors, on peut avoir tous les usages possibles des fichiers. Hein, le fichier, la carte d'identité, peut, je le disais tout à l'heure, servir à matérialiser un droit, à intégrer, ne serait-ce que symboliquement, les citoyens à l'État-nation. On a tous la même carte d'identité, a priori, donc on est égaux. Et puis, il y a la dimension répressive qui peut porter sur n'importe quelle population qu'on veut stigmatiser ou contrôler. Il y a après, on peut parler, vous parliez de la photographie, on dévoile les femmes, il y a une violence symbolique, c'est-à-dire que l'État impose aussi aux individus le type d'identité dont il considère qu'elle est la meilleure pour pouvoir les identifier, les repérer et les contrôler à tout moment. Et puis on a des choses beaucoup plus graves quand on en arrive à des mentions, par exemple la mention juif, où finalement le papier résume l'identité de la personne à lui tout seul, et on a vu par exemple plus récemment au Rwanda, la simple mention Hutu ou Tutsi pouvait faciliter le génocide. On a vu ça aussi au Liban avec les Maronites, l'inscription sur la carte d'identité. Donc le marqueur identitaire en arrive à résumer l'individu dans son ensemble et facilite la répression.
Et puis on va peut-être terminer sur cela avec vous, Pierre Fournier. Il y a ces surprises d'archives, c'est-à-dire que dans ce qui pourrait apparaître pour quelque chose de très normalisé, on s'aperçoit que soit la police, soit les services administratifs récupèrent des photographies, par exemple, prises dans une rafle, dans un endroit particulier, et qu'on trouve des photos qui sont des photos, alors là, franchement, de famille, pourrait-on dire, au milieu d'un fichier qui est censé classer des opposants, classer des ennemis, classer des gens du FLN, par exemple.
Voilà. Donc là se pose la question des individus recherchés pour lesquels on n'a pas de photographie. Donc une part de l'activité des services spéciaux français au moment de la guerre d'Algérie, c'est de récupérer sur le corps des individus arrêtés des photographies. Et bien évidemment, vous les avez sous les yeux, ce sont des photographies de l'intimité des familles. Donc les félagas qui posent, alors parfois en armes certes, mais aussi vous en avez sur la plage. Et c'est tout le problème de la photographie volée, dérobée donc, et détournée de son usage.
Vous parliez, Pierre Piazza, de violence symbolique. Ça, c'est une violence symbolique particulière. C'est-à-dire, c'est l'intimité aux fins de classification, aux
oui,
fins...
quelque part, on s'approprie une partie de l'individu. Mais on peut en discuter longuement. Est-ce que une photographie comme ça fait partie de l'individu? Est-ce que plus récemment, les données biométriques que l'on donne font partie de nous-mêmes ou appartiennent à l'État? Voilà, ça pose... où s'arrête la frontière entre le public et le privé, la sphère privée et le public? Et à qui appartiennent ces données, a priori individuelles? Est-ce qu'elles appartiennent au pouvoir public ou à nous-mêmes?
On sort de cette exposition en passant juste devant et en s'arrêtant peut-être avec vous, Pierre Fournier et Pierre Piazza, devant la toute fin de l'exposition. Vous avez voulu de façon symbolique, là aussi, mettre face à face deux types de fichiers qui disent quelque chose de la société là d'après la guerre d'Algérie, c'est-à-dire la société des années 60. Très brièvement, vous nous présentez ces deux vitrines donc qui sont face à face, Pierre Fournier.
Très brièvement, la France des années 60 est un pays, comme vous le savez, en pleine mutation, et nous avons, sans beaucoup de commentaires, opposé le fichier des élites ou des futures élites de la France, celui de la faculté des lettres de Paris, de la Sorbonne, avec Régis Debray derrière vous, d'un côté, et de l'autre côté, le fichier du personnel ouvrier d'une filature du nord de la France, le peignage Amédée. Et on voit que ce sont deux France, donc, qui se font face. Mais c'est vrai que là, la photo parle d'elle-même. C'est-à-dire que les portraits des individus fichés
disent quelque chose de leurs conditions sociales. Et puis, peut-être aussi, pour terminer là-dessus, Pierre Piazza, on a... une démarche pour ces ouvriers du nord de la France, de Roubaix, eh bien on a une démarche de classification qui anticipe la classification par ordinateur en particulier.
Oui, voilà. Alors déjà, de manière très symbolique, on peut constater que ces fiches s'appellent fiches signalétiques, ce qui renvoie à l'appellation de Bertillon.
Et puis la boucle en tous les cas.
Voilà, on est là dans la mécanographie qui annonce l'informatisation qui débouchera sur nouveaux enjeux en termes de fichage parce que des capacités de stockage de l'information démultipliées, une circulation plus facile de l'information, etc., etc. Bon, maintenant on en est à l'informatisation et à la biométrie, c'est-à-dire on revient un peu à Bertillon, le corps pris pour cible à travers l'iris, les empreintes digitales. Toutes ces traces, on les numérise et on les fait circuler très vite avec de l'informatique. Donc voilà.
Et c'est ce que vous expliquez avec d'autres, donc sous votre direction et de Aïssaï Seyan aussi, l'identification biométrique, champ, acteur, enjeu et controverse aux éditions de la Science de l'Homme. Ça vient tout juste de sortir et on attend donc dans les jours qui viennent la publication de votre livre sur Bertillon, Pierre Piazza. Merci Pierre Piazza, merci à vous également Pierre Fournier. Puis on espère que cette exposition non seulement va permettre un véritable débat sur cette question du fichage, mais aussi de révéler les évolutions de ce fichage depuis la fin du 19e siècle, depuis le moment où la photographie donc est entrée dans ces fameuses fiches anthropométriques. Merci Pierre Fournier.
Et peut-être préciser juste qu'il y a un catalogue, très beau catalogue, qui est publié, Pierre Fournier.
Une édition Perrin qui vient de sortir donc, et qui reprend le titre de l'exposition.